qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, y'a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, y'a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien. 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 On lâche rien.
Je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Il y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous ne les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerai on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. Pasteur n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de glèbe toute neuve. Mais pour chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole. Chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Au mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mangeteurs. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grande que ma main. Je pourrais bien l'élargir demain.
Lundi 4 mars 2024, et c'est l'heure de l'émission Les Mangeurs de Terre, une émission d'écologie sociale sur Radio Libertaire qui chaque mois propose un tour d'actualité de l'environnement en lien évidemment avec des considérations sociales, les deux étant indissociables pour moi. Voilà, bien pour commencer... ce tour d'horizon un peu global, je pense qu'il faut faire état d'un communiqué de France Nature Environnement sur les deux mois de gouvernement Attal, intitulé « La déplanification écologique ». Puisque bien les messages contraires à la planification écologique, les reculades sur les pesticides, les restrictions de l'accès à la justice, les menaces sur la biodiversité et sur la gestion de l'eau. En deux mois, le gouvernement de Gabriel Attal est allé de concession en reculade, mettant à mal les ambitions écologiques affichées par Emmanuel Macron, qui affirmait en 2022 « Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas ce que le Premier ministre met en danger », nous dit France Nature Environnement, c'est un modèle agricole juste et durable. Eh bien pourquoi ? Parce qu'il a reconnu et encouragé un modèle agro-industriel nuisible et dépendant de l'irrigation, encouragé des engrais et des pesticides et donc des hydrocarbures importés. Gabriel Attal renonce donc à sortir les agriculteurs de l'impasse, à protéger nos standards sociaux et environnementaux face à une concurrence déloyale et à résoudre en profondeur le problème du partage de la valeur. Le renoncement à la transition écologique de l'agriculture, c'est également ralentir la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et l'effondrement de la biodiversité. Autre sujet, le respect du droit à l'environnement. En décrédibilisant les services de protection de l'environnement et en diminuant encore le nombre des contrôles déjà insuffisants, le Premier ministre renonce en effet à faire respecter le droit et incite même à l'enfreindre. Troisième point soulevé par France Nature Environnement, le respect des processus démocratiques en imposant d'autorité le seul point de vue de l'agriculture industrielle. Le gouvernement renonce au processus démocratique déjà engagé, seul à même d'éviter les régressions et de faire émerger des solutions satisfaisantes pour toutes et tous. Quatrième point, le financement de la planification écologique avec moins 2,2 milliards d'euros de budget. Le gouvernement Attal choisit de faire porter sur l'écologie le plus gros coup de rabot budgétaire, renonçant de fait à l'atteinte de certains objectifs. Avec 1 milliard d'euros de moins pour MaPrimeRénov', la réduction des consommations et la lutte contre la précarité énergétique sont mises en difficulté. Avec 430 millions en moins pour le fonds vert, de nombreux projets de transition dans les territoires ne seront pas financés. Autre point soulevé, moins de pesticides dans nos assiettes. Alors que l'interdiction des phytosanitaires est une préoccupation mineure chez les agriculteurs, 4% selon le sondage BVA, suspendre le plan éco-phyto est une régression majeure pour la santé de tous et toutes. L'accès à la justice pour tous et toutes, en annonçant la réduction des délais de recours pour les ICPE agricoles et la suppression d'un degré de juridiction en matière agricole, Gabriel Attal choisit de limiter l'accès des citoyens à la justice plutôt que de donner à la justice les moyens de faire son travail rapidement. Une gestion équitable et partagée de l'eau, eh bien là non plus, en soutenant l'irrigation à outrance défendue par la FNSEA, Gabriel Attal renonce au partage équitable entre les différents usages négociés démocratiquement dans le cadre des assises de l'eau. Autre sujet connexe, la protection des zones humides et leurs bénéfices. Les zones humides et leur protection ne sont un problème que pour l'agriculture industrielle lourdement mécanisée. Leurs atouts, en revanche, profitent à tout le monde. La participation du plus grand nombre aux décisions en matière environnementale, en voulant réduire encore le périmètre de la Commission nationale du débat public, CNDP, le Premier ministre assume sa volonté d'imposer des projets sans que les citoyens vivant à proximité ne puissent donner leur avis. Alors que la crise agricole de ces dernières semaines offrait au nouveau Premier ministre la possibilité de commencer son mandat en fixant un cap ambitieux et fédérateur pour une agriculture plus juste et plus durable, Gabriel Attal a choisi de commencer en marche arrière. Les orientations qui se dessinent au terme de ces premiers mois ont le mérite d'être claires. Le gouvernement se met au service des intérêts d'une minorité, quitte à faire passer au second plan nos objectifs climatiques, le droit de l'environnement, la santé des populations, la protection des écosystèmes et le bon fonctionnement de la démocratie. Pour Antoine Gattet, qui est président de France Nature Environnement, en deux mois, c'est un véritable tsunami de reculs environnementaux qui nous a frappés et nous laisse d'autant plus démunis que ces décisions sont prises en méconnaissance totale des règles les plus élémentaires de la démocratie environnementale, qui suppose d'associer l'ensemble des acteurs, dont les services publics de l'environnement, en se fondant sur la science et le droit. Le Premier ministre n'a pas pris la mesure de la crise environnementale et plutôt que d'y répondre, ne donne des gages qu'aux lobbies agricoles, industriels, qui en sont essentiellement la cause. Nous invitons donc France Nature Environnement, M. Attal, à réouvrir et entendre les cadres démocratiques territoriaux afin de construire les politiques environnementales ambitieuses qui permettent d'accompagner le monde agricole productiviste à changer de logiciel et qui accompagne et valorise les agriculteurs qui font le choix de la transition agroécologique. La fracture entre la promesse présidentielle d'un quinquennat écologique et la réalité des régressions environnementales actées par le Premier ministre n'a jamais été aussi profonde. Voilà, je pense que globalement, le tableau est brossé. Alors, pour introduire la page agriculture, c'est une page très copieuse qui va nous amener sur trois bons quarts d'heure de cette émission, tant les choses, il y a des choses à dire. Eh bien, avec le canard enchaîné du 28 février, je voulais revenir sur l'article « Les lobbies font salon ». Parce qu'en effet, trois jours après avoir accompagné Emmanuel Macron lors de l'inauguration mouvementée du Salon de l'Agriculture, Marc Fesneau, donc le ministre de l'Agriculture, est retourné porte de Versailles, cette fois pour un dîner entre amis. Dans le hall numéro 6 du parc des expositions, le ministre de l'Agriculture, dont le stand avait été saccagé le premier jour du salon, trônait comme un coq en pâte à la table d'honneur au milieu de 250 convives. Depuis 15 ans, à chaque salon de l'agriculture, le grand dîner, donc avec des majuscules, le grand dîner, mélange dans une même soupière industriels de l'agroalimentaire, ministres et parlementaires. L'année dernière, c'était carrément la première ministre, Elisabeth Borne, qui était venue aux Agapes aux côtés de Fesneau et d'une brochette de députés et de sénateurs. Cette soirée aux petits oignons, mitonnée par des chefs étoilés, est organisée par le Club de la Table Française, une confrérie qui revendique, ouvrez les guillemets, une approche positive et enthousiaste de notre alimentation, fermez les guillemets, et qui est officiellement présidée par une sénatrice et un député. Sauf que le Club de la Table Française a, en réalité, été créé en 2009 par une agence de com qui en a fait un espace de lobbying mutualisé, dixit le site de la dite agence. Outre le grand dîner, comme public, donc l'agence organise tous les ans via son club une dizaine de déjeuners débats pour permettre à ses clients de se rencontrer en toute convivialité, parlementaires et ministres, lesquels clients payent la tambouille. Le ticket d'entrée pour adhérer au Club de la Table Française oscille entre 3 000 et 20 000 euros annuels suivant l'ampleur du lobbying. Parmi la quarantaine d'adhérents, on trouve pêle-mêle les Brasseurs de France, l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés, la Fédération française des spiritueux, celle des industriels charcutiers traiteurs, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, la Chambre syndicale française de la levure, Bacardi Martini, Nestlé, Pernod Ricard, la Fédération des jus de fruits industriels, le Comité national pour la promotion de l'œuf, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, l'interprofession des semences et des plants, sans oublier la FNSEA, premier syndicat agricole et grand défenseur de la culture intensive. Comme Public a lancé sur le même modèle une vingtaine de clubs, dont celui des Amis du Cochon, entièrement financé par la filière porcine et qui, à son apogée, alignait près de 200 parlementaires, tous copains comme cochons, évidemment, nous dit le canard en conclusion de cet article paru dans le journal du 28 février. Alors, du côté des syndicats agricoles dignes de ce nom, à savoir la Confédération paysanne, on a aussi quelques communiqués ce mois-ci, indépendamment du salon. Premièrement, sur Lactalis, puisque la Confédération paysanne combat sans relâche les prédateurs de la valeur du revenu paysan. Donc, dans un communiqué du 7 février, La Confédération paysanne nous dit que son travail pour défendre un revenu digne pour tous les paysans est un combat de longue haleine. Et l'annonce qui a été faite donc le 6 février des perquisitions menées au sein du groupe Lactalis intervient après que la Confédération paysanne ait transmis en janvier 2019 au parquet national financier un signalement étayé concernant des soupçons d'évasion fiscale. L'objectif est de faire cesser les pratiques de prédation de la valeur par Lactalis. Précédemment, la Confédération paysanne avait aussi déposé des plaintes pour extorsion de la valeur dans plusieurs départements laitiers et elle avait aussi obtenu la publication des comptes de Lactalis. Les pratiques du numéro 1 mondial du lait se font au détriment de la rémunération paysanne et de l'ensemble de la société. La Confédération paysanne demande donc une revalorisation immédiate du prix du lait à la hauteur des demandes des organisations de producteurs qui livrent à Lactalis. Alors que la Confédération paysanne Grand Est a mené une action devant la centrale d'achat Leclerc à Châlons-en-Champagne, nous poursuivons le rapport de force pour obtenir une protection structurelle du revenu paysan via la couverture de l'intégralité de nos coûts de production, protection que la loi Egalim n'assure pas. En effet, cette loi prévoit seulement l'obligation de mettre un indicateur, ouvrez les guillemets, coût de production, fermez les guillemets, dans la formule du calcul du prix payé au producteur. Mais cet indicateur est loin d'être le seul pris en compte dans cette formule de calcul. C'est pourquoi le prix final payé au producteur peut demeurer inférieur au coût de revient. On voit là donc toute l'aberration hein, de ce prix qui ne rémunère pas, qui peut ne pas rémunérer le producteur. La communication gouvernementale autour des contrôles de la loi Egalim n'est qu'un écran de fumée, nous dit la Confédération paysanne, tout en dévoilant l'absence de volonté de faire appliquer une loi pourtant en vigueur depuis plus de 6 ans et pourtant encore insuffisante pour protéger notre revenu face au déséquilibre structurel des filières alimentaires. Sans réponse rapide de l'aval des filières alimentaires et des pouvoirs publics, nous en tirons les conséquences pour agir dans la défense des éleveurs et faire plier les prédateurs de la valeur dont font partie Leclerc et Lactalis. Un rapport de force crucial s'est engagé ces dernières semaines pour obtenir un revenu paysan juste. La Confédération paysanne compte bien continuer à se mobiliser pour offrir un avenir serein aux paysans et dénoncer les mécanismes d'accaparement de la valeur du travail paysan. Car des solutions existent et n'attendent que le courage politique de les appliquer. Donc parmi ces solutions, 4 sont citées. Premièrement, l'interdiction d'achat de nos produits agricoles en dessous du prix de revient dans une loi contraignante et effective, ce que ne permettent pas les lois Egalim. Deuxièmement, l'instauration de mécanismes d'encadrement des marges des industries agroalimentaires et de la grande distribution pour une meilleure répartition de la valeur dans les filières alimentaires. Troisièmement, l'interdiction des surmarges pratiquées par la grande distribution sur les produits de qualité, comme les produits d'appellation d'origine contrôlée ou labellisés en agriculture biologique. À partir de ma part, on avait vu lors d'une émission précédente effectivement que bien il y avait une forme de prétexte pour se faire des marges encore plus importantes, notamment sur l'agriculture biologique, effectivement. Et enfin, quatrième et dernier point soulevé par ce communiqué, la protection vis-à-vis des importations déloyales à bas prix au moyen d'outils de régulation des marchés et d'une rupture avec le libre-échange, effectivement, la condition, cette dernière condition étant une clé d'une rémunération correcte du travail des paysans. Toujours sur la question du lait, la Confédération paysanne, dans un communiqué du 14 février, apporte son soutien aux producteurs de Sunlay. En effet, l'industriel Savencia, groupe agro-industriel international, fait du chantage à la collecte de lait à ses producteurs organisés au sein de l'association d'organisation de producteurs AOP appelée Sunlay. Par des courriers de mise en demeure, par des appels répétés et visites les menaçant de ne plus les collecter dès le 8 mars prochain s'ils ne quittent pas cette association, donc Sunlay. Ce fonctionnement est inadmissible, il est insupportable et inacceptable qu'une entreprise laitière fasse du chantage à la collecte de lait pour des éleveurs organisés. Les lois Egalim poussent à la construction du prix en marche avant à partir des coûts de production dans les différentes négociations. Afin de permettre la meilleure prise en compte de ces indicateurs favorables à une rémunération paysanne juste, l'organisation collective des producteurs est un atout et une nécessité pour peser face à des industriels rompus à ce genre d'exercice. Dès le début des états généraux de l'alimentation, a été mise en évidence l'importance de l'organisation collective des agriculteurs. C'est bien dans cet esprit qu'ont été écrites les différentes lois qui ont suivi. La Confédération paysanne affirme son soutien aux producteurs de Senlay et a interpellé par courrier, donc le 14 février, les ministres de l'économie et de l'agriculture. La Confédération paysanne demande au gouvernement de faire respecter l'esprit de la loi, mais aussi d'aller au-delà, avec la mise en place de mesures contraignantes qui garantissent que les prix payés aux producteurs couvrent les coûts de production. Et puis, un dernier communiqué de la Confédération paysanne, suite au Salon international de l'agriculture, communiqué du 23 février, disant qu'Emmanuel Macron doit répondre aux problèmes de fond et non pas faire de la com sur le dos des paysans. Plutôt qu'une mise en scène grossière de grands débats, formule éculée par Emmanuel Macron lors des Gilets jaunes et autres épisodes, nous attendons des décisions politiques d'envergure pour répondre aux difficultés de l'ensemble des paysans. Une loi en urgence pour établir des prix planchers garantissant la rémunération de notre travail et notre protection sociale. Également un arrêt des accords de libre-échange dans lesquels des pans entiers de notre agriculture et de nos territoires sont sacrifiés pour une vision libérale, étriquée et catastrophique pour l'intérêt général. Je rajoute un commentaire, hein, c'est le principe de l'intérêt, l'avantage comparatif, hein, en économie libérale, donc à savoir, peu importe les externalités, le coût finalement environnemental, à la fois par la destruction, on peut penser à la culture du soja en Amérique du Sud, et également au voyage phénoménal de la marchandise que cela induit, bien cette notion d'avantage comparatif, cette théorie purement économique, est celle qui guide évidemment les signatures des accords de libre-échange qui sont l'expression même de cette vision du libéralisme et du libéralisme tout court. Et évidemment, ces modalités entravent la capacité à vivre dignement et à ne pas se trouver dans une concurrence déloyale. C'est bien ce qui est souligné par ce communiqué. Je reprends les revendications, donc troisième revendication, un accompagnement fort de tous les paysans sur toute la France qui souhaitent s'engager dans la transition agroécologique. Et enfin, des mesures de protection forte du foncier agricole pour contenir l'accaparement des terres agricoles et pour stopper tous les projets d'artificialisation des terres agricoles qui sont de véritables crimes contre notre souveraineté alimentaire. Ce grand débat, donc toujours avec des guillemets, hein, cette formule éculée prononcée par Emmanuel Macron, et ses circonvolutions autour des invitations ne sont qu'un contre-feu grossier visant à détourner le débat public des enjeux de fond. En premier lieu, le revenu paysan et le renouvellement des générations, la protection et la répartition du foncier, la précarité alimentaire. Nous sommes bien face à une volonté délibérée d'attirer l'attention médiatique en la saturant par une controverse stérile, loin des décisions cruciales sur le revenu paysan et les accords de libre-échange. Le sujet n'est pas celui de l'écologie contre l'agriculture, opposition bien pratique pour orchestrer et servir un repli sur soi corporatiste, favorable au statu quo libéral qui broie les paysans. Le gouvernement et la FNSEA, donc premier syndicat agricole, souhaitent amener le débat sur ce terrain pour éviter toute critique des décisions prises depuis des décennies qui ont amené la majorité des paysans dans le mur avec ce système économique inégalitaire et destructeur de l'emploi paysan et de la planète. La manœuvre actuelle autour de pseudo-grands débats est bien d'empêcher toute réflexion constructive sur l'évolution des systèmes agricoles dans l'intérêt des paysans et de l'intérêt général. Nous ne sommes pas dupes. Nous continuons à nous mobiliser comme syndicats agricoles représentatifs pour changer ce système agricole et économique libéral qui tue les paysans. Nous portons ainsi, durant ce salon de l'agriculture et après, la volonté sincère de trouver de réelles solutions viables et durables pour l'ensemble des paysans. Voilà qui méritait d'être dit en introduction de cette émission. Et nous allons tout de suite nous accorder une pause et respiration musicale. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
est à toi cette chanson. Toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
Voilà, c'était Georges Brassens, chanson pour l'Auvergnat, sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, toujours dans l'émission Les Mangeux de Terre, bien qu'à ouvrir la page agricole, avec, pour poursuivre, un communiqué cette fois-ci de Génération Future sur la question des pesticides, et plus précisément d'un indicateur qui est remis en cause par le gouvernement. Cet indicateur s'appelle le NODU, N-O-D-U, qui a pourtant, nous dit Génération Future, les faveurs du comité scientifique d'Ecophyto, puisque ses experts se sont prononcés pour la nécessité de conserver un indicateur prenant en compte les doses d'usage, donc cet indicateur tel que le NODU, tout en soulignant les aspects problématiques des indicateurs européens. À la lumière de cette prise de position donc tout à fait récente, Génération Future dénonce la décision purement politique du gouvernement d'abandonner cet indicateur NODU au profit de l'indicateur HRI1, décision qui a été prise au mépris de l'avis des scientifiques chargés officiellement du suivi de ces indicateurs du plan, le tout en cédant sans lutter aux pressions répétées de la FNSEA et de l'industrie des pesticides. Alors que le Premier ministre a annoncé le 21 février l'abandon de cet indicateur historique du plan Ecophyto NODU à la demande de la FNSEA et de FITEIS, qui est une organisation regroupant les industries des pesticides, les 14 membres du comité scientifique et technique, donc du plan Ecophyto, ont publié un long texte sur le site The Conversation sur les indicateurs de ce plan. Et ces membres du comité scientifique et technique Ecophyto rappellent que nous avons notamment pour mission de guider le choix des indicateurs. Dans ce texte, nous souhaitions préciser la nature de ces derniers et en clarifier les enjeux. Ces experts rappellent donc que le Nodu a été construit par des scientifiques d'INRAE en lien avec les pouvoirs publics pour pallier les faiblesses de la quantité de substances actives, donc QSA, c'était aussi un autre indicateur. Ils expliquent dans ce texte comment améliorer l'indicateur Nodu, notamment en le simplifiant ou en intégrant l'ensemble des substances actives utilisées pour les traitements de semences dans le calcul. Ensuite, les experts expliquent que les indicateurs européens, dont le HRI1, retenu, sont problématiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les masses ne sont pas rapportées à des doses d'usage. Ensuite, en France, environ 80% des substances vendues sont par défaut classées dans le second groupe des substances autorisées. Ce classement est donc peu discriminant. Et enfin, les valeurs de pondération utilisées pour le calcul de ces indicateurs sont arbitraires et ne sont étayées par aucun résultat scientifique. Les membres donc du conseil scientifique et technique du plan Ecophyto font également des propositions et affirment que l'indicateur Nodu n'est aujourd'hui utilisé qu'en France, mais il suffirait de simplifier son calcul tel qu'il le propose pour le rendre utilisable à l'échelle européenne. Pour eux, une autre option acceptable pourrait être que les indicateurs européens soient modifiés pour utiliser au sein de chaque groupe un équivalent du Nodu et non une masse totale de substances. C'est fondamentalement ce que l'agence environnementale allemande propose dans son rapport de mai 2023, bien qu'elle critique aussi les coefficients de pondération, donc de l'indicateur alternatif proposé par le gouvernement, HRI1. Les experts proposent également l'adoption d'un bouquet d'indicateurs permettant de décrire tout à la fois l'intensité de l'utilisation des pesticides, mais aussi les risques pour la santé ou l'environnement, ou les services agronomiques. Il conclut en alertant sur la nécessité de conserver un indicateur prenant en compte les doses d'usage telles que le Nodu. Cet indicateur doit continuer d'être appliqué à l'ensemble des ventes pour caractériser la quantité totale de traitement et d'autre part d'être appliqué aux substances les plus préoccupantes pour quantifier l'effort d'arrêt des substances les plus dangereuses. Le comité scientifique et technique confirme donc les critiques émises par Génération Future et fragilise fortement la décision prise par le seul Gabriel Attal sous pression de l'agrochimie. Cette position courageuse des membres du CST Ecophyto confirme les critiques faites par Génération Future contre l'indicateur alternatif donc proposé HRI1 et l'intérêt de conserver un indicateur prenant en compte les doses d'usage telles que le Nodu. Nous sommes scandalisés de constater que la décision d'abandonner le Nodu prise le 21 février par Gabriel Attal s'est faite au mépris le plus total des scientifiques pourtant chargés d'expertiser les indicateurs du plan Ecophyto au motif que ouvrez les guillemets, c'est ce que les agriculteurs demandaient, déclare François Veyret, porte-parole de Génération Future. Ce mépris de la science est très inquiétant dans un monde où fake news et vérités alternatives sont partout et menacent la démocratie. Nous sommes atterrés également par la situation claire de co-gestion des questions agricoles entre l'État et la FNSEA, que ce sujet met clairement en évidence. Ce rejet de la réalité scientifique pose aussi la question de la légitimité de la décision du gouvernement, ajoute-t-il. Voilà, donc là, il y a un renversement d'arguments. Hein. Nous oppose souvent la raison de la science. Hein. Je me souviens que c'est notamment ce type d'argument qui est employé pour justifier les OGM, alors que la question de la faim dans le monde n'est pas une question d'agrochimie. Hein. C'est une question beaucoup plus globale. On est toujours sur ce niveau et là cette fois-ci l'argument de la science qui nous a été rabâché pendant la période du Covid, des vaccins et tutti quanti, là cette fois-ci ne pèse rien ou très peu en tout cas pour prendre une décision de retirer, de casser le thermomètre finalement qui permet de mesurer notre niveau très important de dépendance aux pesticides et on va le voir tout de suite avec un article de reporter du 22 février qui nous rappelle que 73%, donc près des trois quarts des fruits non bio, sont contaminés aux pesticides. Notamment près de 94% des cerises, 91% des pamplemousses, 90% des nectarines et pêches contiennent au moins un résidu de pesticides lorsque ces produits non bio sont vendus en France. Et ça, c'est le résultat d'un état des lieux sur les fruits et légumes non bio publié par l'ONG Génération Future le 22 février. L'association a compilé des résultats des plans de surveillance relatifs aux résidus de pesticides réalisés par les autorités françaises sur 5 années 2017 à 2021. Et donc, plus 73% des échantillons de fruits non bio sont concernés par la présence d'au moins un résidu de pesticides sur la période étudiée. Côté légumes, c'est 46% des échantillons qui en contiennent. La réglementation française permet la présence de résidus de pesticides, mais seulement en dessous d'un certain seuil appelé limite maximale de résidus, donc LMR, hein, c'est la limite. Selon le rapport de Génération Future, de nombreux fruits et légumes dépassent cette LMR dans les échantillons. C'est le cas de 14% des échantillons d'herbes fraîches, 13% des céleri raves, 12% des salades, ou encore 37% des fruits de la passion, 23% des ananas et 19% des grenades. Alors que la politique de réduction de l'usage des pesticides en France semble à l'arrêt avec l'abandon de l'indicateur NODU du plan Ecophyto, nous montrons que la présence de résidus de pesticides dans l'alimentation végétale reste plus que jamais d'actualité et nécessite la mise en place de politiques agricoles volontaristes et contraignantes visant à réduire notre dépendance à ces intrants de synthèse, conclut l'association Génération Future dans un communiqué. Alors, bien, puisqu'on parle d'agriculture non bio, on va parler d'agriculture bio avec toujours un article de Reporter du 29 février qui nous dit que 40 millions d'euros de plus pour les agriculteurs bio en difficulté, c'est l'annonce qui a été faite donc par Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, le 28 février au Salon de l'Agriculture. Le fonds d'urgence initialement lancé fin janvier par Gabriel Attal atteindra au moins 90 millions d'euros. Si les critères d'attribution ont été modifiés et permettent d'augmenter le nombre de fermes éligibles, le montant de l'enveloppe n'est toujours pas à la hauteur des besoins, estime la filière. Avec un tel montant, on ne va probablement pouvoir aider que 15% des fermes quand il aurait fallu en toucher le double, déplore Philippe Camburet, qui est président de la Fédération nationale de l'agriculture bio, la FNAB, dans un communiqué. Le gouvernement a également annoncé un plan Ambition Bio 2027, dont l'un des objectifs est de stimuler la demande de produits bio et renforcer la confiance des consommateurs. Sont notamment visées les restaurations collectives et commerciales. Un vaste chantier, tant les freins restent nombreux. En effet, seuls 7% des cantines scolaires auraient atteint le seuil réglementaire des 20% de produits bio dans leur menu. Quant aux restaurants, la situation est encore pire en raison de multiples obstacles que Reporter détaille dans un article accessible sur son site. Aujourd'hui, seulement 1% de produits bio seraient proposés à la carte des 170 000 restaurants de France. On voit ce gouffre encore sur cette question. Alors, un autre article qui m'a semblé intéressant, qui est un petit peu plus long, mais qui vaut le coup d'être évoqué, c'est le site The Conversation, un article du 29 février, avec trois auteurs, Cindy Lombard, Didier Louis et Olga Untilov, qui nous disent que le constat est sans appel, puisque les Français délaissent les produits bio. En 2023, leurs ventes ont baissé en volume de moins 11% et en valeur de moins 3% dans les anciennes bio type Biocoop. La vie claire également. Ainsi qu'en grande et moyenne surface, donc Biocoop, la vie claire, la baisse a été de à peu près 9%, et en grande et moyenne surface, la baisse des ventes a été de un peu moins de 5%. Pourtant, les écarts de prix entre produits alimentaires bio et conventionnels se sont réduits. Alors, comment expliquer cette perte de succès des produits labellisés bio ? Le prix du caddie reste le nerf de la guerre et dans leur grande majorité, 71%, les consommateurs perçoivent les prix des produits bio comme trop élevés par rapport aux bénéfices qu'ils apportent et au prix des produits conventionnels. Dans les faits, les produits biologiques sont généralement de 20 à 30% plus chers. Cette différence de prix est encore davantage un frein à l'achat des produits bio pour les consommateurs occasionnels et pour les consommateurs fortement préoccupés par leur pouvoir d'achat. Ensuite, les consommateurs ne semblent plus nécessairement convaincus par les promesses fondatrices des produits bio, bons pour leur santé et bons pour l'environnement. Ils ne sont que 17% à penser que manger sainement signifie manger des produits biologiques. L'apparition d'autres labels environnementaux tels que label naturel, haute valeur environnementale, HVE, a également brouillé les perceptions des consommateurs. Ces derniers ne savent pas ce que recouvrent ces différents labels avec leurs points de différence et de similarité. Enfin, d'autres promesses plaisent plus aux consommateurs, telles que la promesse de produits locaux. Une grande majorité de consommateurs, 86%, déclarent faire davantage confiance à un produit local qu'à un produit biologique. Et cela pour plusieurs motifs. Meilleure qualité, prix plus juste, levier de soutien de l'économie locale et de protection de l'environnement. Dès lors, certains consommateurs compensent la consommation de produits bio par la consommation de produits locaux et d'autres privilégient le bio local dont les ventes sont en croissance de 4%. C'est vrai qu'on peut également faire les deux. Alors, sur l'impact de l'inflation sur les prix des produits bio, les taux d'inflation à deux chiffres, 12% en 2023 contre 3% début 2024, ont marqué les esprits des Français autant que les étiquettes de prix. Les prix ont fortement augmenté, le pouvoir d'achat est ainsi devenu la première préoccupation des Français, 77%, et ils ont davantage pris l'habitude de comparer les prix pour 62%. Or, plus les individus sont préoccupés par leur pouvoir d'achat, moins ils achètent de produits bio. Les prix des produits bio n'ont certes pas été épargnés par l'inflation, mais l'écart avec les produits conventionnels est resté stable ou pour certains produits a pu diminuer. Par exemple, le beurre bio a vu son prix passer de 10 euros le kilo en janvier 2021 à 11 euros en décembre 2022, quand le beurre non bio a vu son prix passer de 8 à 10 euros sur la même période. Les produits bio ont de fait mieux résisté à l'inflation que les produits conventionnels car ils n'ont logiquement pas été impactés par la hausse des coûts de production des produits phytosanitaires, principalement produits en Russie. Quant aux produits bio locaux, ils ont été moins impactés par les fluctuations des cours sur les marchés mondiaux liées à la guerre en Ukraine. Mais malgré la réduction des écarts de prix entre bio et conventionnel, un cercle vicieux s'est mis en place. Les consommateurs ont acheté moins de produits biologiques et les enseignes, surtout les grandes et moyennes surfaces, ont fait des coupes dans leurs assortiments en défaveur des produits bio, à hauteur de moins 11%. Les espaces dédiés en magasin qui ne proposaient que des produits biologiques ont été supprimés. Les produits bio sont pour la plupart retournés dans les rayons de leur catégorie de produits d'origine près des produits conventionnels non bio. Un déplacement loin d'être anodin qui a de fait contribué à rendre les produits bio moins visibles et attractifs et qui a rendu la comparaison entre produits bio et conventionnels encore plus simple, notamment au niveau des prix, les produits étant à nouveau côte à côte. Les consommateurs ont dès lors davantage noté le différentiel de prix entre les deux types de produits en défaveur des produits bio. Ces constats, néanmoins, sont à relativiser, nous disent les auteurs de l'article, puisque ce désengouement apparent des consommateurs français pour les produits bio est à relativiser en fonction de différents profils de consommateurs. D'après la Fondation Jean Jaurès et Circana, la surconsommation de produits bio est la plus importante pour les consommateurs du type hyper-urbain cosmopolitain et quartier bourgeois. Donc, même si les produits bio sont en moyenne plus chers, ce ne serait pas pour autant le revenu qui expliquerait cette surconsommation localisée, mais davantage un niveau de diplôme plus élevé ainsi qu'un degré d'urbanité plus important. Un constat qui rejoint celui de l'agence bio et de l'Obsoco, qui indique que les consommateurs convaincus par le bio, 29%, sont des catégories socio-professionnelles supérieures et diplômées. Ces conclusions posent cependant la question de la démocratisation des produits bio afin de toucher de plus de profils de consommateurs et des consommateurs regardant avant tout les prix. Cette question du prix est bien plus vaste que la seule étiquette finale à poser sur le produit, car elle correspond rarement à ce qu'on appelle le prix juste. Qu'est-ce qu'un prix juste ? C'est le prix raisonnable et justifié aux yeux des consommateurs qui prend en compte de façon exhaustive l'ensemble des coûts économiques, environnementaux et sociaux engendrés tout au long du cycle de vie du produit. En outre, il garantit une valeur consommateur et une transparence ainsi qu'une répartition équitable des coûts et profits entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. On l'a vu tout à l'heure avec le lait, qui ne permettent pas de rémunérer correctement les producteurs. Je reviens à l'article. Autre divergence notable, celle entre le prix indiqué et le véritable coût d'un produit, si l'on inclut les coûts cachés, c'est-à-dire les impacts environnementaux et sanitaires de la production comme de la consommation. En 2020, aux États-Unis, il était estimé qu'en incluant le montant des coûts cachés de l'alimentation, on arrivait à près du double des dépenses alimentaires. En Allemagne, certains supermarchés ont décidé d'expliciter cette différence en affichant côte à côte le prix de vente et le coût environnemental d'un produit. Donc ça, c'est intéressant, je m'arrête sur ce point. Effectivement, si on a des produits alimentaires qui sont bien à un niveau plus faible, mais que l'impact sur l'environnement, l'écologie et le social est bien aussi grand, sinon plus fort, Il est clair que ce sont ce qu'on appelle des coûts cachés que la collectivité paye, et on a donc l'illusion de payer un produit moins cher quand, en globalisant les choses, il finit par nous revenir plus cher. Voilà, c'est quand même un élément aussi de responsabilisation, et cette initiative allemande explicitant justement ce prix de vente et ce coût environnemental d'un produit paraît vraiment très intéressante. Je rappelle également que il y a une notion aussi relative du poids de l'alimentation dans un budget familial, puisque depuis les années 60, ce budget consacré à l'alimentation a été divisé par deux dans un budget familial, et donc on peut dire que finalement l'attrait pour les autres biens de consommation, et on peut penser notamment à la profusion d'objets électroniques, la voiture, etc., eh bien cet attrait est supérieur à celui d'une alimentation de qualité qui est finalement mis de côté, mais qui nous revient en boomerang avec ses effets secondaires, l'effet le plus notable étant bien sûr la question des pesticides. Je reviens à l'article qui nous dit qu'en France, plus de la moitié des consommateurs, 62%, ne comprennent pas bien pour les prix des produits alimentaires ce qui revient à chaque acteur de la chaîne de production. Il est important que les consommateurs perçoivent le prix des produits biologiques comme étant juste. Car ces prix justes leur permettent d'être davantage satisfaits, d'avoir davantage confiance et d'acheter davantage de produits bio. Alors, sur la solution ponctuelle des promotions, les promotions en plus d'éventuels prix bas ou petits prix selon les appellations pourraient être un moyen de recruter de nouveaux consommateurs et de baisser les prix de façon ponctuelle. La majorité des consommateurs attendent en effet qu'un produit soit en promotion pour l'acheter. Quel que soit leur niveau de préoccupation pour leur pouvoir d'achat, les consommateurs vont davantage acheter des produits bio en promo par rapport aux mêmes produits conventionnels qui ne sont pas en promotion. En revanche, quand les consommateurs les plus fortement préoccupés par leur pouvoir d'achat ont le choix entre des produits bio en promotion et les mêmes produits conventionnels en promotion, évidemment, ils vont davantage acheter les produits conventionnels. Autrement dit, le signal de la promotion profite davantage aux produits conventionnels qu'aux produits bio. De surcroît, cette technique marketing qui est l'offre de promotion pose la question pour les consommateurs plus fidèles de sa justesse et d'une potentielle dégradation de l'image responsable des produits bio au bénéfice de leur image prix. Pour conclure l'article, si les promotions semblent ainsi n'être qu'une solution ponctuelle, la mise en avant des produits bio en utilisant des affiches en magasin et en rayon pourrait s'avérer plus efficace. En effet, rendre les produits bio plus visibles permettrait à certains non-consommateurs actuels, 22%, de développer le réflexe d'acheter et de consommer ces produits. Les affiches en magasin et ou en rayon pourraient mettre en avant les éléments liés à l'impact sur la santé de l'agriculture bio et l'impact environnemental de celle-ci, car seulement la moitié de Français considèrent avoir suffisamment d'informations quant à ces aspects. Voilà ce que nous dit cet intéressant article fouillé du site The Conversation du 29 février. Et pour terminer, alors sur un sujet connexe, puisqu'on va parler de la pêche, agriculture et pêche, ça va ensemble. Eh bien, je vais vous relayer un article d'Actu Environnement du 13 février sur l'aspect biodiversité, qui nous dit que les années passent sans réelle amélioration, et c'est un constat qui a fait l'Ifremer. En effet, malgré une légère amélioration par rapport à l'an dernier, l'état des populations de poissons pêchés en France continue de stagner. D'après les chiffres annuels de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, donc l'Ifremer pour 2022, qui ont été publiés le 13 février, 56% des volumes débarqués par les pêcheurs hexagonaux au cours de l'année, donc 347 000 tonnes au total, qui est en légère augmentation, provenaient de populations dont l'exploitation est considérée comme durable, en opposition à celle qui est surpêchée. Donc on voit, ça fait 56%, c'est juste un peu plus de la moitié de la production qui est considérée comme durable. En 2021, le chiffre correspondant a été revu à la hausse, c'était 54% contre, initialement annoncé 51%. Donc les volumes de poissons issus de populations surpêchées ou effondrées restent au même niveau, entre 19 et 20% pour les premières, donc pour les populations surpêchées, et environ 2% pour les secondes, donc celles qui sont effondrées. en état très critique évidemment des stocks. Cette situation n'est pas homogène sur toutes les façades maritimes. Vers la mer du Nord, plus de 63% des captures sont prélevées dans des populations jugées en bon état, comme le hareng ou la coquille Saint-Jacques. Au large de la Normandie et de la Bretagne, cette part est de 50%. Cependant, les poissons de population en bon état de conservation restent minoritaires dans les volumes de pêche dans le golfe de Gascogne, puisqu'elles ne sont que 37%, ou en Méditerranée, où là c'est extrêmement critique, puisque les populations en bon état qui sont pêchées ne représentent que 2,5% du total, soit bien plus que de la moitié des espèces pêchées dans cette région qui ne sont pas surveillées par l'Ifremer. Voilà. D'après les chercheurs, le ralentissement de cette amélioration pourrait être dû à la fragilisation des recrutements, c'est-à-dire du nombre de jeunes poissons en capacité de se reproduire qui passent entre les mailles des filets. Or, à l'heure actuelle, dans le milieu naturel, on estime qu'environ seul un œuf sur 100 000 survivra jusqu'à devenir un poisson adulte, souligne Clara Ulrich, qui est chercheuse et coordinatrice des expertises halieutiques à l'Ifremer, ce qui me donne l'occasion également de, bien, comme on est attentif à l'aspect alimentaire, et on a beaucoup parlé des fruits et légumes, et bien également sur la pêche, cette question là, on doit se la poser, hein, c'est ne pas fonctionner par réflexe, voilà, de manger du saumon parce que c'est bon. Il faut aussi se poser la question des ressources et de la provenance, parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'épuiser les stocks et de se retrouver sans rien, ou en tout cas avec une situation considérablement dégradée qui ne soit pas durable. Voilà. Je clôt cette page sur l'agriculture et la pêche par une chanson de Léo Ferré, La mémoire et la mer, et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre, rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades. Oh,
parfum rare des salants, dans le poivre-feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlights cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure, et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaire, où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle,
Léo Ferré, La mémoire et la mer sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. Alors avec en transition, je voulais revenir sur une tribune et une coalition Stop Embouteillage, mettons fin à l'embouteillage de l'eau. Alors c'est un collectif, il y a plusieurs associations, collectif Eau 88, donc les Vosges, collectif Volvic Nous Pompe, collectif Eau Secours Saulnois, collectif Stop Embouteillage d'Yvonne, collectif des Vagues de la Révolte en Suisse. Et donc le communiqué nous dit que les multinationales qui vendent des bouteilles d'eau privatisent un bien commun, siphonnent les nappes et inondent la terre de plastique. Cette tribune appelle à précipiter dans sa chute inéluctable cette industrie mortifère. Et cet appel de la coalition Stop Embouteillage vise à la mise à l'arrêt définitive de la filière de l'embouteillage industriel de l'eau. Tandis que l'embouteillage, la mise en bouteille, hein, c'est bien clair, c'est pas l'embouteillage routier. Tandis que le dérèglement du cycle de l'eau s'aggrave d'année en année, la consommation de l'eau en bouteille est plus que jamais en Occident un luxe inutile. Surtout quand on connaît la bonne qualité générale de l'eau potable proposée aux populations malgré les pollutions, la privatisation des régies municipales et les campagnes de dénigrement de l'eau du robinet. Face à cette situation, il ne nous paraît plus supportable de poursuivre l'activité d'embouteillage de l'eau qui conduit directement à, premièrement, développer un modèle industriel extractiviste, surcarboné et ultra-capitaliste qui est basé sur le pillage des ressources ainsi que des chaînes d'approvisionnement logistique qui impliquent le transport par camion ou par bateau sur des milliers de kilomètres. Deuxièmement, continuer le déploiement néocolonial du modèle agroalimentaire des multinationales comme Danone ou Nestlé qui exploitent des nappes partout sur la planète pour rendre dépendantes les populations du Sud. Elles sont et seront pourtant extrêmement exposées aux tensions géopolitiques liées aux accaparements de l'eau. Ainsi, Nestlé a créé avec Coca-Cola, qui ne produit pas que des sodas et embouteille aussi de l'eau ailleurs dans le monde, le, alors je ne vais pas le dire en anglais, mais 2030 Water Resource Group, un outil de coopération internationale publique-privée au sein duquel multinationales et gouvernements œuvrent à la privatisation de l'eau. Troisième argument, perturber le cycle de l'eau et réduire l'eau disponible en puisant localement dans les nappes phréatiques. Plusieurs usines d'embouteillage sont ainsi en difficulté de prélèvement à Vittel, donc dans les Vosges, mais aussi à Volvic, Salvetta et Perrier. Quatrième argument sur les impacts, produire à elle seule 600 milliards de bouteilles chaque année, qui représentent 25 millions de tonnes de plastique polluant l'air, la terre, les rivières et les océans. Et enfin, mettre sur le marché une eau en bouteille massivement polluée par des nanoparticules de plastique ainsi que par des bactéries potentiellement pathogènes. Tout cela, sans compter les pratiques de contournement plus ou moins illégales des réglementations, tant sur la qualité que sur la quantité des eaux prélevées, qui sont monnaie courante dans l'industrie. C'est ainsi qu'on a récemment appris, grâce aux révélations d'une enquête publiée par Le Monde et Radio France, que les multinationales de l'agroalimentaire trichaient avec leur propre label. On sait désormais que les eaux minérales sont discrètement traitées lors du processus industriel et ne sont donc plus censées être minérales. En effet, les eaux souterraines sont désormais irrémédiablement polluées par l'ensemble des activités humaines. Or, la réglementation de l'exploitation des eaux minérales est très stricte. Aucun traitement de l'eau mise en bouteille n'est toléré. C'est le fonds de commerce des minéraliers tout entier qui est en train de vaciller. Ainsi, l'usine d'embouteillage de Fier des Lois, donc Fier F-I-E-E, des Lois, L-O-I-S, propriété d'Intermarché dans le Poitou, vient de fermer sa ligne d'eau minérale pour cause de pollution de la nappe aux pesticides. Et la cynique campagne publicitaire permanente qui consiste à promettre aux consommateurs une eau embouteillée exceptionnellement pure et naturelle, constitutive de cette industrie, est désormais devenue un incontestable et scandaleux mensonge. Le business extrêmement lucratif de Danone, Nestlé, Alma et les autres, qui consiste à vendre beaucoup plus cher que celle du robinet une eau volée aux populations locales, est en péril. Aujourd'hui en France, près d'une centaine d'usines d'embouteillage exploitent l'eau des nappes pour la production d'eau ou de soda embouteillé. Partout sur le territoire, autour des usines d'embouteillage, on achète le silence des populations locales. En échange, elles redistribuent aux collectivités une partie des bénéfices du pillage de leurs eaux et s'adonnent au greenwashing en valorisant des pratiques agroécologiques autour des sites d'extraction, soi-disant pour préserver la ressource. Il est temps d'en finir. À nous de jouer pour précipiter dans sa chute inéluctable cette industrie symbole de l'impérialisme occidental qui, fort de ses bases sur le continent européen, commercialise l'eau, commun inaliénable du vivant et de l'humanité, partout sur la planète. Par solidarité avec les autres continents, revendiquons l'arrêt de cette industrie en France et en Europe, tout en prenant soin du devenir de ses ouvrières et ouvriers. Nous, collectifs, à l'initiative de la coalition Stop Embouteillage, invitons les habitants riverains des sites d'embouteillage à créer des collectifs locaux pour se mobiliser contre les embouteilleurs et à rejoindre la mobilisation au sein de notre coalition afin d'enquêter sur les pratiques de cette industrie et rendre visibles ses impacts écologiques et sociaux à toutes les échelles. Alors je rajoute, le rendre visible ses impacts, contrairement à ce que la pub nous présente, toujours la pureté achetée en bouteille, en oubliant évidemment toutes les externalités, tous les coûts induits, environnementaux induits, qui sont absolument énormes. Entreprise de desservelage qu'est la publicité, bien évidemment. Pour ce faire, donc, je reprends le communiqué, une cartographie des usines d'embouteillage en France a d'ores et déjà été réalisée sur laquelle les collectifs peuvent s'inscrire ou renseigner les usines pas encore répertoriées. Et toutes les informations sont accessibles sur Stop Embouteillage. Il vous suffit de taper cela sur un moteur de recherche. L'appel à une première mobilisation est fait pour le samedi 23 mars. Au lendemain de la Journée mondiale de l'eau, contre le projet d'usine d'embouteillage à Dieuze en Moselle, ainsi qu'à des actions décentralisées tout le week-end devant les usines d'embouteillage partout en France, pour dénoncer l'accaparement de l'eau. Pour contacter le collectif Stop Embouteillage, il y a une adresse mail stop-embouteillage@ riseup.net, mais vous pouvez tout à fait, via un moteur de recherche, retrouver cette information. Allez, sans plus tarder, on ouvre aussi la page climat, et mais surtout énergie, rapidement sur le climat. Reporter, dans un article du 26 février, nous dit que la banquise antarctique est au plus bas pour la troisième année de suite. En effet, le 21 février, la banquise antarctique ne s'étend plus que sur 1,98 million de kilomètres carrés. C'est seulement la troisième fois après 2023 et 2022 que cette glace de mer passe sous la barre des 2 millions de kilomètres carrés depuis le début des mesures en 1979. Selon le National Snow and Ice Data Center, donc NSIDC, qui est un observatoire états-uniens de référence. Cette troisième année consécutive critique pour la banquise est la preuve, selon les chercheurs interrogés par le Guardian, d'un changement de régime pour la banquise antarctique qui est en pleine transition critique abrupte. Le mois de février au cœur de l'été austral correspond chaque année au minimum d'étendue de la banquise, mais il faut encore attendre une ou deux semaines avant de savoir si le pic bas a été atteint, estiment les scientifiques. Le record absolu a été atteint l'an dernier avec une banquise minimale à 1,79 million de kilomètres. Cet affaiblissement de l'étendue estivale de la banquise a aussi des conséquences en hiver lorsqu'elle atteint son maximum. Celui-ci est également de plus en plus faible et la perte de la banquise contribue à accélérer la fonte des glaciers sur le continent. Beaucoup de chercheurs redoutent qu'il puisse passer prochainement un point de bascule irréversible. Dans le pire des scénarios, la fonte des principaux glaciers menacés en Antarctique et au Groenland pourrait faire monter la mer de 2 mètres en un siècle. Voilà, donc ça c'est sur le climat, et alors sur la page énergie, alors plusieurs informations en continuité, hein. Donc les émissions mondiales de CO2 ont atteint un record en 2023, elles ont augmenté de 410 millions de tonnes en 2023 pour atteindre un niveau record de 37,4 milliards de tonnes, a révélé l'Agence internationale de l'énergie le 1er mars. Là, je fais toujours le même commentaire, mais il est important de le dire, hein. On a des pays occidentaux qui se disent vertueux en délocalisant leur production, en faisant produire leurs objets manufacturés ou leur nourriture largement ailleurs, et en oubliant bien de s'attribuer les émissions de gaz à effet de serre des produits consommés sur le territoire. Et donc, on peut se parler de vertu en disant que la France diminue ses émissions de gaz à effet de serre si on les réintroduit via notre consommation. Il est clair, et on en avait parlé, je crois, début janvier, dans l'émission de janvier, on avait démonté cet argumentaire sur bien la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il suffit de consulter le site du CITEPA, CITEPA, qui produit dans ses rapports une empreinte écologique des émissions de gaz à effet de serre, et on voit la réalité qui n'est pas celle que nous vendent les gouvernements, accusant la Chine d'être le plus gros pollueur, mais la Chine produit pour le reste de la planète. Il faut aussi en avoir conscience. Alors, je reprends l'article. Les émissions donc de gaz à effet de serre ont augmenté en 2023, moins fortement que l'année précédente. Donc, c'était 490 millions de tonnes en 2022, 410 en 2023. Mais la croissance de la demande totale d'énergie s'est accélérée. Un déficit exceptionnel d'hydroélectricité dû à des sécheresses extrêmes en Chine, aux États-Unis et dans plusieurs autres économies, a entraîné une augmentation de plus de 40% des émissions en 2023, les pays se tournant largement vers des alternatives aux combustibles fossiles pour combler le déficit, indique l'Agence internationale de l'énergie dans un communiqué. Si la production hydroélectrique n'avait pas été aussi faible, les émissions mondiales de CO2 liées à la production d'électricité auraient diminué, affirme l'agence, ce qui aurait considérablement réduit l'augmentation des émissions liées à l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie met en avant le développement de technologies telles que l'énergie solaire, éolienne et les véhicules électriques, sans qui l'augmentation mondiale des émissions de CO2 au cours des 5 dernières années aurait été 3 fois plus importante. Je mets un bémol, moi, sur les véhicules électriques, hein, qui sont d'abord pas une source d'énergie, évidemment, et surtout qui cache énormément de coûts induits tout à fait insoutenables, ne serait-ce que pour les métaux rares composant les batteries. C'est vraiment, l'histoire nous démontrera qu'il s'agissait d'un gadget et d'un usage complètement démesuré, tout ça pour pas remettre en cause bien l'aspect individuel de la consommation et du déplacement, et continuer à nous faire croire que c'est un droit de se déplacer et c'est un droit de piller les ressources. Sur le sujet, on peut aussi voir l'évolution, par exemple, des trottinettes électriques en libre-service qui ont assez largement disparu, et surtout avec des batteries qui ne dépassaient pas les 6 mois. Des gadgets urbains qui ont été largement... qui sont un symbole de gaspillage tout à fait éhonté. Je ferme l'aparté et je reprends de l'article de Reporters du 1er mars qui nous dit que les émissions de la Chine ont augmenté d'environ 565 millions de tonnes en 2023, tandis que les pays aux économies avancées, entre guillemets, ont connu une baisse record. Donc je vous renvoie à mon intervention de début d'article. Alors même que leur PIB augmentait, leurs émissions sont tombées à leur plus bas niveau depuis 50 ans, tandis que la demande de charbon est retombée à des niveaux jamais vus depuis le début des années 1900, s'est réjoui l'AIE. La raison, une combinaison entre un fort déploiement des énergies renouvelables, le passage du charbon au gaz, des améliorations d'efficacité énergétique et un ralentissement de la production industrielle. Donc effectivement, ce quatrième argument, le fait de plus je délocalise, plus je suis vertueux dans mon émission de gaz à effet de serre, c'est évidemment un argument décisif, l'avantage comparatif qu'on évoquait tout à l'heure. Principe économique qui nous fait produire à n'importe quel bout de la planète à partir du moment où c'est produit moins cher, par les conditions sociales, par les contraintes environnementales, eh bien c'est évidemment cet aspect-là qui fausse absolument tout. Gardons l'esprit critique en lisant ce type d'article. Alors, l'article conclut par « Les chiffres de 2023 ne sont pas satisfaisants. Les émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus, doivent réduire drastiquement pour espérer tenir la limite de 1,5 degré fixée par l'accord de Paris en 2015. » Alors, dans les bonnes nouvelles, plutôt bonnes, en tout cas sur les énergies renouvelables, avec Novetic, dans un article du 18 février, qui nous dit que pour la première fois, la production d'électricité issue des fermes éoliennes a dépassé celle issue des centrales à gaz en Europe en 2023. Selon le think tank britannique Amber, les éoliennes européennes ont produit en 2023 475 TWh, 13% de plus qu'en 2022, contre 452 pour les centrales à gaz. Quant au charbon, il est loin derrière avec seulement 333 TWh produits. Côté français, donc l'énergie éolienne représente désormais 10,2% de la production totale d'énergie avec 50 TWh, selon le dernier rapport publié par RTE. Pour expliquer cet essor de l'éolien, les spécialistes évoquent des conditions météorologiques très favorables à cette énergie renouvelable, mais également la poursuite du développement du parc éolien, surtout en mer. La France prévoit notamment la mise en service de 45 gigawatts éoliens d'ici 2050 via l'exploitation de nouveaux sites offshore. Alors, sur la chaleur renouvelable, on a un article qui nous dit que les chiffres pour l'année 2022 sont encore loin de l'objectif pour 2030, un article publié sur Actu Environnement, mais ai-je le temps de l'évoquer ? Je pense pas. Alors, je vais plutôt aller directement sur un autre article d'Actu Environnement, sur les passoires thermiques, qui nous dit que, un article du 28 février, que 1,5 million de logements recensés dans le parc locatif privé sont des passoires thermiques, et cela résulte d'une étude publiée le 20 février par le service des données et études statistiques, le SDES, du ministère de la Transition écologique. Le nombre de logements passoires thermiques étiquetés F et G du diagnostic de performance énergétique DPE avoisine au 1er janvier donc 1,5 million dans le parc locatif privé en France métropolitaine. Donc là, je vais me faire un commentaire, puisque on ne peut que s'étonner de considérer que les passoires thermiques ne sont que les logements étiquetés F et G du diagnostic de performance énergétique, quand on se rappelle que entre 2008 et 2010, les fameuses lois Grenelle avaient prévu l'éradication notamment des passoires thermiques EFG, hein, de consommation EFG, pour 2020, et notamment dans le parc social. Hein, on voit que bien plus le temps évolue, plus on révise les objectifs, et surtout le jour J où l'on clame que le Grenelle de l'environnement va tout résoudre, eh bien, on ne fait que des cocoricos et des explosions de joie, mais on est beaucoup moins enclin à évaluer justement ces objectifs, s'ils sont atteints ou pas, et à les réinscrire dans un historique. Donc là, on voit cet article qui nous dit que les logements passoires thermiques, c'est seulement les classes F et G, donc les deux pires, hein, en oubliant la classe énergétique E. Voilà, c'est ce dont je m'étonne. Je reprends la lecture de l'article qui nous dit que sur les 8 millions de logements du parc locatif privé en France, la part des logements F représente 10,5% du parc, la part de logements G est estimée à 8%, pardon. On a aussi l'information que près de 22,4% de ces logements sont étiquetés en classe E. Ça veut dire, si je refais le calcul pour répondre à mon propre commentaire, que 40% des logements du parc privé sont donc de classe EFG, et donc sont des passoires énergétiques, ce qui est absolument énorme, et ce qui montre aussi que le changement d'échelle n'est absolument pas là. On l'avait vu avec MaPrimeRénov', les difficultés mise en place de ces travaux de rénovation énergétique, on en a longuement parlé, et on voit que le résultat n'est absolument pas là, compte tenu de l'état de délabrement, en tout cas énergétique, du parc, qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Constitué pour près de 70% d'appartements, tout le parc locatif privé est par ailleurs plus ancien. 37% de logements construits avant 1948, avec davantage de petits logements de surface de moins de 30 mètres carrés et de logements chauffés à l'électricité, plus de la moitié du parc, ajoute l'étude. Globalement, les propriétaires du parc sont également plus âgés, 46% ont entre 50 et 80 ans et 10% ont plus de 80 ans, et environ la moitié des logements du parc énergivore concernent des propriétaires des deux derniers déciles de niveau de vie, soit les revenus les plus élevés. De même, la part des logements classés EFG atteint 46% dans le premier décile, soit les ménages les plus modestes, contre 36,8% dans le dernier décile. On voit quand même ces questions de décile, on voit qu'il y a des propriétaires aisés qui ont des logements qui sont des passoires énergétiques, que ce logement est totalement dévoyé de son objet, hein, que c'est une condition de la dignité, d'avoir un toit sur la tête, et que c'est devenu un objet de spéculation. C'est complètement aberrant, immoral, tout ce que l'on veut. Et je peux rappeler aussi que en France, 3,5%, le 50% du parc privé est détenu par 3,5% des propriétaires. Donc voilà, on nous explique que le pauvre propriétaire qui n'a pas les moyens d'entretenir son logement, il y a aussi globalement des multipropriétaires qui se font rentiers sans investir à la hauteur de ses biens, et ça, il faut le dire. Alors, à noter, par rapport à l'estimation du ministère au 1er janvier 2022, le taux de passoire du parc locatif privé est en baisse de 1,6 points, donc si on considère que les classes F et G. Le temps presse pour les propriétaires bailleurs en métropole, avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de l'interdiction de louer tous les logements classés G les plus énergivores, ce qui les contraint à rénover. Depuis janvier 2023, les logements étiquetés G+, et consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an d'énergie finale, sont déjà exclus du marché locatif pour un nouveau bail, puis ce sera au tour des logements classés F en 2028, puis E en 2034. Voilà ce qui est prévu, mais il y a des bidouillages, j'ai pas le temps d'en parler, sur ces sur ces chiffres. Bon, on se fait une pause musicale et puis on terminera dans les 10 minutes qui restent l'émission. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Pentru de tamaire, lupu, toate sunt bagaire, când s-a te volu farga, e mole per te barra, aprope nu se te virus, în tagadiu se te stiro, că de sala societat, vorbi și-o băs declarat. Nu, 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 nu te calire, nu, 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 nu te calire, nu, adu pe rus, că te saco, că te înclavo, că te îmbaro, din fund, din obrijo, nu te calire, nu. E ca dintr-o zi la vidu, ta leuta primiro, crino, ca tu n-am împudet, te ven cu palo curde, la mas de la medicină, te brandi sunt asasină, cu spiciul de tu maldis, de cea te ser cu virgin. Nu, 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 nu te calire, nu, 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 nu te calire, nu, a tu te rus, că te saco, că te clavo, că te îmbaro, din fund, în obrijo, nu te calire, nu. E lo non che te causi so sape spaio lo surtiso ni per ta grada paspla non te carra becuta arrivo la figliulazza e la gleio del villazze per fare tu un cristiat fue ciò pasa tu una grat no 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 non te calire no 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 non te calire no a tutte rus che te sago che te enclavo che te imbaro di no fondo non brisù non te calire no. Sono la prendi sazia co de più bella smaiso per cargare a cortesio manco base fantasio e calpa fa la monino calpisare in la tupino se fa slatra lo picciu da staras el curezzu
se servì de l'arsenal des lois des décrets avec l'aide de ses flics tu n'as aucun destin.
Te calpasa bella cagno ni mai petai in compagno plego di fallo purcas e di te curare unas e vilus specialisto di un escolo centralista te replego lo sclavel e te incluisco lo cervel. No, 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 non te calire, no. No, 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 non te calire, no. A tutte rus che te saco, che te enclavo, che te imbaro di un fondo in obrijo, non te calire, no. Abitana cos l'armado che ti attiro per l'amargo per ta pene a ciua, auria zira te cargo la disciplina a cos de pedi l'eschino per fare tu un soldat manco base possedat. No, 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 non te calire, no. No, 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 non te calire, no. A tutte rus che te saco, che te enclavo, che te imbarro di un fondo in obrijo, non te calire, no. E pei un su te marirus cu un cambiome ni traviro cosa tu de comanda de cusire de tu sta e fas la massa in la fenno e li frette in la cude non me sa prenda in a tu se fan uses de nostre refran. No, 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 non te calire, no. No, 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 non te calire, no. A tutte rus che te saco, che te enclavo, che te imbaro di lo fune non brisù, non te calire, no. No, 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 non te calire, no. No, 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 non te calire, no.
Oh, 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 guardo te Tchakovin. Oh, 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 de manca pas lutrin. Oh, 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 plego de falugus. Oh, 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 cambio l'article 12.
Voilà, c'était une chanson en occitan par le groupe La Talvera. Non, 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 une chanson voilà, d'opposition, de révolte. Pour finir l'émission, eh bien, la page nucléaire, alors très rapidement, avec bien, je m'appuie sur l'Observatoire du nucléaire, l'édito de l'Observatoire du nucléaire, donc Stéphane Lhomme, qui nous dit en mars 2024, donc il y a une revue de presse intéressante d'hiver 2023-2024, décembre à février. Qui nous dit que la France va vers l'abîme et qu'il faudra bien qu'un jour et probablement bientôt un dirigeant politique ou industriel se présente enfin devant la population pour avouer la situation désespérée de l'industrie nucléaire française, à commencer bien sûr par celle de l'EDF et carrément celle de la France entraînée elle aussi dans l'abîme. En effet, le doute n'est désormais plus permis, c'est bien la faillite qui attend EDF, en particulier du fait des chantiers de réacteurs EPR ou EPR deuxième génération. En mars 2016, 2016 face à la décision insensée d'EDF de construire deux réacteurs EPR en Grande-Bretagne à Hinkley Point, Thomas Piquemal, le propre directeur financier de l'entreprise, avait pris le risque de saborder sa prometteuse carrière en démissionnant avec fracas et même, avait-il expliqué, par désespoir. Ce n'étaient plus les antinucléaires, ces oiseaux de malheur, ces mauvais Français à la solde des Allemands, voire même des Chinois ou de Poutine, qui lançaient l'alarme, mais un homme du Sérail parfaitement pro-nucléaire, mais personne n'a voulu l'écouter. Aujourd'hui, les taux se referment. Avec déjà 12 ans de retard, des tas de malfaçons et près de 20 milliards de surcoûts, l'EPR de Flamanville va possiblement être mis en service et commencer une carrière catastrophique à l'image de Superphénix en son temps. En espérant qu'il ne s'agisse pas carrément d'un Fukushima français, on peut en particulier craindre la rupture de la cuve, défectueuse mais validée quand même par la prétendue autorité de prétendue sûreté nucléaire, l'ASN. Mais la catastrophe nucléaire se présente d'ores et déjà sous la forme d'un désastre financier. Comme prévu, Hinkley Point est en train de totalement surpasser les exemples pourtant dramatiques des chantiers EPR de Finlande et Flamanville. EDF n'y survivra pas, nous dit Stéphane Lhomme. Et pourtant, la risible Macronie et ses deux ridicules animateurs, Macron en France et Raymond EDF, lancent les chantiers de deux autres EPR baptisés EPR2 pour faire croire que cette fois tout va bien se passer et annoncent au total 14 de ces réacteurs maudits qui, bien heureusement, ne verront jamais le jour. Le nucléaire aura coulé EDF et la France bien avant. Et puis, rapidement aussi sur, on en avait parlé, mais je vais réévoquer le sujet, sur la baisse structurelle du prix de l'électricité en Europe qui condamne le nucléaire à la ruine, avec deux articles cités donc par l'Observatoire du nucléaire. Premièrement, la prolongation de vie de deux réacteurs va coûter très cher à l'État belge, publié dans la Libre Belgique du 21 février. Et deuxièmement, nucléaire, la baisse des prix de l'électricité menace la rentabilité d'EDF, avec un article de Reuters du 25 janvier. En effet, la lourde déconvenue du gouvernement belge comptée dans l'article visé au-dessus n'est qu'un petit aperçu du désastre qui va frapper EDF et ruiner la France en quelques années. Voici de quoi il s'agit. Lorsque les prix de l'électricité se sont envolés en Europe sous l'effet conjugué de l'attaque de Poutine en Ukraine et de la crise de la corrosion sous contrainte qui a mis jusqu'à 31 réacteurs français arrêtés sur 56, le gouvernement belge a paniqué et exigé d'Engie, qui est propriétaire des réacteurs nucléaires belges après avoir racheté Electrabel, la prolongation de durée de vie de 10 ans pour deux réacteurs, Dole 4 et Tihange 3. Engie, qui avait acté la fin du nucléaire en Belgique et pris ses dispositions, était très réticente à revenir en arrière et prolonger ces deux réacteurs. Logiquement, Engie a exigé et obtenu un prix garanti de 81 euros par mégawattheure pour l'électricité qui sortira de ces deux réacteurs pendant les 10 ans de RAB imposé. Or, il est désormais avéré que les prix de gros en Europe vont être structurellement bas. D'ores et déjà, sur le marché de gros, le prix payé pour 2027, car l'électricité s'achète longtemps à l'avance, n'est aujourd'hui plus que de 64 euros par mégawattheure, donc 4 contre 80 euros garantis plus haut. L'État belge va perdre dans l'affaire près de 2 milliards d'euros, voire même beaucoup plus. Sachant que la France ne compte pas deux réacteurs mais 56, plus l'EPR de Flamanville, sans oublier les chantiers commencés à Hinkley Point et annoncés à Penly. Il est facile de comprendre que c'est la ruine totale qui est programmée. Les dirigeants d'EDF et de la France en sont réduits à espérer secrètement des désastres, guerre, attentats, ouragans, séismes, qui pourraient éventuellement faire remonter les prix de l'électricité et sauver EDF, nous dit Stéphane Lhomme. Mais dans le même temps, les renouvelables continuent leur montée exponentielle avec des coûts qui s'effondrent et ces énergies sont très décentralisées et donc très résilientes par rapport aux catastrophes naturelles ou géopolitiques. Des pays comme l'Espagne et le Portugal, autrefois considérés comme défaillants, battent des records de production renouvelable à des tarifs toujours plus bas. Ce sont eux qui bientôt alimenteront la France, conclut Stéphane Lhomme. Voilà, mais je n'ai pas trop le temps d'aller plus loin. Je vous conseille d'aller voir cet article et cette revue de presse, notamment avec le nucléaire qui poursuit sa chute libre dans le monde, puisque passé de mémoire de 17,1% de production d'électricité mondiale en 2001 à 9,2% aujourd'hui, en 2022, hein, on voit. Donc cette baisse est inéluctable. On va conclure cette émission à l'instant. Avec Jacques Brel. D'ici là, n'oubliez pas d'aider au financement de Radio Libertaire, qui vit grâce au soutien de ses auditeurs, notamment via le bon de souscription qui est accessible sur le site internet. Et pour notre part, nous nous retrouvons comme d'habitude le premier lundi du mois suivant, donc ça sera lundi 1er avril, à 18h sur les ondes de Radio Libertaire 89,4 MHz.
Pourtant, les hôtesses sont douces aux auberges bordées de neige. Pourtant, patientes les épouses que les enfants ont prises au piège. Pourtant, les auberges sont douces où le vin fait tourner manège. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant, les villes sont paisibles où tremblent cloches et clochers. Mais le diable dort-il sous la Bible? Mais les rois savent-ils prier? Pourtant les villes sont paisibles de blanc matin en blanc coucher. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant il nous reste à rêver, pourtant il nous reste à savoir. Et tous ces loups qu'il faut tuer, tous ces printemps qu'il reste à boire. Désespérance ou désespoir, il nous reste à être étonné. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant il nous reste à tricher, être le pic et jouer cœur, être la peur et rejouer, être le diable et jouer fleur. Pourtant il reste à patienter, bon an, mal an, on ne vit qu'une heure. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient?
Il est encore passé ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89,4 MHz.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation, animé en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur le 8h de Loisirs Quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Running wild, lost control, running wild.
L'édito du lundi 4 mars 2024 du Monde Merveilleux du Travail. Comme le 20 novembre 2023, nous accueillons Norbert, militant de l'AFA et retraité du secteur des transports, avec qui, comme le 20 novembre 2023, nous allons aborder les déplacements des travailleurs devant se rendre à leur boulot et en repartir. Mais il n'y a pas que. Les politiques économiques et sociales décidées par des technocrates voulant satisfaire les actionnaires ont imposé des règles et des règlements aux travailleurs du secteur routier et ferré, des quotas de personnel et sûrement des déceptions professionnelles. Le transport n'est plus un métier qui fait rêver, il ne fait plus envie et encore, on ne prend pas en compte les risques psychologiques ni les accidents. Donc, en route durant 1h30 pour une visite des secteurs des transports.